Seigneur, on est très reconnaissant de revoir Hélène parmi nous. Merci de l'avoir gardée pour son voyage. Merci parce qu'elle nous met en lien aussi avec ces églises en Chine qui vivent dans une autre réalité que nous, qui existent au milieu d'un contexte politique hostile, avec une pression. Des chrétiens pour qui venir au culte est un engagement aussi, parfois contre le gouvernement, une exposition. Seigneur, nous sommes fiers de ces chrétiens. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et ils nous rendent fiers de persévérer dans des situations difficiles. Merci de ce lien que tu crées entre nous et cette Église à travers notre sœur. Seigneur, on veut aussi apporter la situation du Congo. Seigneur, un pays magnifique que tu as façonné avec soin de tes mains, mais qui est tellement convoité par les hommes. Il y a presque trop de richesses dans ce pays, Seigneur, et la guerre et la soif d'argent et de pouvoir transforment ce pays en un lieu de mort et de danger. Seigneur, il y a ces rebelles du M23 qui sèment le chaos, la souffrance et la mort. On ne sait pas comment réagir, comment quoi faire, Seigneur, mais on te demande d'intervenir. On te demande de susciter dans l'opinion internationale une prise de conscience. On te demande de tourner les cœurs des dirigeants et des personnes de puissance dans ce monde de sorte qu'elles interviennent. Qu'elles viennent soutenir, fortifier les actions peut-être gouvernementales au niveau du Congo. Que cette situation qui dure depuis presque décennies, Seigneur, tu puisses y mettre un terme, que tu puisses établir un ordre des choses au Congo qui permet la stabilité, la prospérité, la paix, durablement. Seigneur, que ton règne vienne. Viens en aide aux réfugiés, viens en aide aux populations déplacées, protège leur vie. Seigneur, nous sommes dépassés par cette souffrance, alors c'est vers toi que nous nous tournons. Amen. Je voulais vous rappeler aussi que ce week-end, à partir de... Alors normalement, c'est le samedi et dimanche, mais il y aura une conférence en bonus le vendredi soir. Il y a cette conférence P2A, Peuple de l'Alliance, qui est organisée à la Maison diocésaine de Nîmes. Donc c'est un centre d'accueil catholique. Pour ceux qui étaient là au synode dernier, c'était au même endroit. Je pourrais vous envoyer un programme plus détaillé, mais vendredi soir déjà, il y aura au temple de la rue Adrien une conférence particulière autour du malheur et de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Alex Saran, qui est associé à nos églises, qui a écrit un livre spécifique sur Job et la question du malheur et de la foi. Donc cette conférence aura lieu à partir de 20h et il y aura un temps d'accueil et de chant qui va précéder cette conférence au temple de la rue Adrien à Nîmes. Le samedi, cette grande convention va commencer à partir de 8h30. Et le matin, le professeur Donald Cobb qui va travailler à nous faire réfléchir sur la réalité communautaire du salut. On n'est pas sauvé en tant qu'individu, on est sauvé en tant que peuple. Comment est-ce que dans notre vie, l'individualisme, peut-être aussi l'hédonisme, les loisirs peuvent parfois nous replier sur nous-mêmes? Et comment aussi il nous est difficile de penser le salut comme un nous plus que comme un je? Voilà, toutes ces questions-là. Il y aura aussi dans l'après-midi, aussi une deuxième conférence dans la matinée avec le pasteur Emmanuel Coulon. L'Église peut-elle répondre aux divisions contemporaines? Voilà. Et puis enfin, un temps de questions-réponses aussi avec cette question. Je crois à la communion des saints. Est-ce possible? Ensuite, l'après-midi, des ateliers à propos de l'évangélisation, du culte en famille, de l'alimentation, sport, foi, idole. Voilà des thèmes comme l'univers et la théologie de J.R. Tolkien. Plein de choses un peu diverses et variées. On ne vous garantit pas que tous les enseignements sont fiables et nous ressemblent. On ne connaît pas tous les intervenants. Mais voilà, vous pouvez demander plus de renseignements auprès de moi. Et puis, le soir, il y aura un culte d'adoration. Voilà. L'inscription, c'est 15 euros pour faire toute la journée. C'est un peu la première qui est lancée cette année. P2A. Pardon ? Il y a un repas à midi, ouais. Ouais. Demandez-moi, je vous enverrai la pub plus détaillée, peut-être que ce que j'ai pu faire dans le... C'est le moment de la prédication. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Ah oui, ce matin, j'ai qu'un seul caté, c'est Manoah. Mais peut-être que la semaine prochaine, il y en aura plus. Est-ce que quelqu'un voudra bien faire le temps du questionnaire avec les enfants? Si quelqu'un est volontaire là, pour la semaine prochaine. Ah, Michel, tu viens me voir à la fin du culte, je te repasserai le questionnaire pour prendre ce temps de rencontre avec les cathés. Ce matin, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Et avant de lire, j'ai besoin de prier. Et je vous encourage à prier avec moi. C'est le moment de prêcher, Seigneur, de lire ta parole, de la porter d'une façon où tu passes par moi pour nourrir ton peuple. J'ai besoin d'être conduit par ton esprit, gardé dans tes mains. Mais Seigneur, que toutes les personnes présentes dans cette salle puissent aussi par ton esprit avoir une écoute sincère, honnête, franche, de ta parole. Amen. 2 Corinthiens 5, je lis la fin du chapitre, les versets 17 jusqu'à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui d'une vocation que Dieu adresse à tous les croyants, à tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en Christ. Mais peut-être d'abord, je dois parler de qu'est-ce que ça veut dire que d'être en Christ. Dans notre univers, il existe des lois physiques que vous connaissez, la gravité, par exemple. Et il y a des lois spirituelles. L'une de ces lois spirituelles dit que celui qui agit contre la volonté de Dieu ne peut pas continuer à exister devant Dieu, dans sa présence, et puis vivre en même temps. C'est comme vouloir toucher le soleil. Cela se finit en général pas très bien. Et c'est pas parce que le soleil est méchant ou mauvais, mais simplement parce qu'il est tellement puissant, intense, qu'on ne peut pas supporter cette puissance et s'approcher de lui. Et entre la sainteté de Dieu et mon péché, il se passe la même chose. Je ne supporterai pas de m'approcher de Dieu par moi-même, tant sa puissante sainteté me consumerait. Mais dans notre histoire, dans notre récit chrétien, il est dit que Dieu a créé les humains pour être en relation avec eux, en communion, en collaboration. La révolte du péché nous a séparés de lui, alors Dieu a choisi d'avoir recours à un rituel ancien qui applique une autre loi spirituelle d'ailleurs. Cette loi dit que une vie innocente offerte volontairement rachète une vie coupable de ses fautes. Dieu est venu en personne sur la terre. Il est devenu un être humain pour offrir sa vie innocente, une vie humaine et divine aussi, une vie d'une valeur infinie, pour racheter les fautes de celles et ceux qui acceptent de conclure avec lui ce pacte, un pacte avec Dieu. Et dans ce pacte, Dieu appose une marque sur l'âme de ces personnes. Il les scelle en déposant sur eux son Esprit Saint définitivement. Alors, eh bien, leurs fautes sont appliquées à Jésus-Christ, Dieu homme qui a offert de mourir à notre place. Et l'innocence de Jésus est appliquée à celui, à celle qui est scellée de Dieu. Ça, c'est le pacte. Donc quand Paul parle de ceux qui appartiennent à Christ, il parle de ceux qui ont accepté ce pacte. Ces personnes reçoivent par ce pacte non seulement le pardon pour leurs fautes, nous en reparlerons, mais également l'assurance de revenir à la vie lorsque Dieu mettra fin à notre histoire pour restaurer le monde à sa façon, c'est-à-dire un monde sans péché, sans mort, sans souffrance. Et parfois, il tarde pour ceux qui ont ce pacte en eux de vivre cette vie nouvelle. En fait, dans le chapitre 5 qu'on a lu, enfin, on n'a lu que la fin, Paul parle avec les chrétiens de Corinthe qui ont ce désir d'être libérés de cette vie mortelle. Une vie marquée par la souffrance, par la maladie, par la mort, par les désirs et les envies qui nous écartent de Dieu, dans nos cœurs, dans la culture où on vit, par des visions du monde, de celles et ceux qui nous entourent, qui nous poussent à choisir autre chose que Dieu au centre de nos vies. Bref, il y a les circonstances, les combats, plein de choses qui nous font souffrir, comme ceux qui sont autour de nous souffrent aussi. On n'a pas le monopole. Et malgré tous nos efforts, notre désir peut-être de marcher vers le Seigneur, on essaye de s'entourer de relations fortes, porteuses de sens. On essaie de nous tenir éloignés peut-être du péché. Mais quoi qu'il en soit, ce monde nous tient loin de Dieu. Alors beaucoup de chrétiens regardent la mort finalement non plus comme une ennemie à vaincre ou simplement comme la fin de la vie, mais comme une délivrance, un passage heureux vers Dieu. Tout cela à cause de ce péché qui nous environne et qui nous habite. Et même l'apôtre Paul comprend, il va dans ce sens et il dit « Car tandis que nous sommes dans cette tente c'est le corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Il dit ça, Paul. Mais remarquez avec moi la petite insistance. Non pas nous dévêtir, mais revêtir. Il insiste. Non pas nous dévêtir, mais revêtir. Cette petite insistance-là, il aurait pu écrire directement « car nous voulons nous revêtir de la vie ». Non. Il insiste. Parce que l'idée chrétienne de la vie éternelle, justement, c'est d'exister avec nos corps, de chair, d'os et de sang, pour toujours. Nous pourrions croire, en vieillissant, que l'origine de toute souffrance, c'est le corps. Certains parmi vous l'expérimentent bien. Mais l'origine de la souffrance quotidienne, même celle qui s'installe avec l'âge, c'est la mort. Ce n'est pas le corps. Regardez un enfant vivre, bondir, courir à la moindre occasion, tester les limites de son corps, apprendre de nouvelles capacités. Son corps est une source de joie, de plaisir et d'aventure. Paul considère que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nos corps mortels seront recouverts d'un corps immortel. Ce qui peut être blessé et mourir va être absorbé par ce qui ne peut pas être blessé et ce qui ne peut pas mourir. Dans une autre lettre, Paul écrit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. L'espérance chrétienne n'est pas fondée sur être libéré du corps, vous savez, comme s'il y avait une âme captive d'un corps et puis que quand le corps meurt, l'âme enfin est libérée du corps. Ça, c'est l'espérance des païens qui vivent autour de Paul. C'est pour ça qu'il précise, non pas nous dévêtir, mais nous revêtir. Non. L'espérance chrétienne consiste à voir son corps être transformé, recevoir un corps qui ne souffre plus, qui ne meurt plus, qui ne nous trahit plus. Mais cela ne change pas notre désir de partir pour vivre cette vie sans souffrance. Cela ne change pas notre aspiration peut-être profonde à tourner la page à toute cette histoire. Même s'il nous faudra peut-être passer du temps là-haut, auprès du Seigneur, en attendant le moment où il redescendra sur terre et où nous ressusciterons avec lui. Pourquoi le Seigneur ne nous reprend-il pas aussitôt que nous sommes à lui? Pourquoi nous laisse-t-il ici-bas? Paul donne un sens à cette attente. Il affirme, premièrement, que celui qui a conclu ce pacte avec Dieu, qui a scellé son destin à celui de Jésus-Christ, il est déjà une nouvelle créature. Déjà. Que déjà, cette vie à laquelle nous aspirons, elle commence en lui. Aussitôt que l'Esprit-Saint a été scellé sur lui. Mais ce ne sont que des éclats, des fragments de cette vie à venir. Elle n'est pas pleinement là. Tu es déjà une nouvelle créature, même si le monde autour de toi n'a pas encore été renouvelé. Et toi, tu travailles à vivre le plus possible cette vie nouvelle. Il dit deuxièmement que celui qui appartient à Jésus est un ambassadeur de Jésus. Il porte là où il va, malgré lui, un message de la part de Dieu. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu, nous dit Paul. Alors, mon attente dans ce monde brisé, dans ce corps qui se brise de plus en plus avec l'âge peut-être, avec mon cœur qui est peut-être lui aussi brisé et dont je peine à recoller les morceaux, cette attente n'est pas inutile. Je vis chaque jour qui passe. Moi, je cherche à me tourner vers Dieu qui m'a sauvé pour que chaque journée compte. Pourtant, le soir, je dois faire le constat que je suis trouvé pécheur, pas parfait. Mais Dieu m'a marqué de son esprit et mon destin reste scellé en lui,
quoi qu'il advienne.
Malgré moi, je peux être un signe de l'appel que Dieu lance au monde entier, à la création entière, un appel qui dit « Faisons la paix ». Vous verrez donc en moi quelqu'un qui marche vers Dieu, mais pas parfaitement. Peut-être ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se questionnent et disent « Mais alors, qu'est-ce qui te donne cette assurance d'appartenir à Dieu ? Regarde ta vie, elle est incohérente, elle est inconséquente. Tu prétends, mais au fond, qui es-tu ? Quiconque connaît un chrétien connaît quelqu'un de incohérent, qui ne vit pas tout ce qu'il croit, qui ne fait pas tout ce qu'il dit, qui ne s'oriente pas totalement vers son espérance. Vous me direz, ouais, mais les non-chrétiens, ils ne sont pas mieux. Et nous, on proclame avoir une foi, un sauveur. Combien de fois il m'est arrivé, je vous l'ai déjà dit, de réfléchir ma vie, alors même que j'écris une prédication, hein ? Je la prépare et je vois ce que j'écris, ce que je crois, ce que je pense, ce que disent les Écritures. Je ne le vis pas. Alors je soupire. Il faut quand même que je le dise parce que c'est vrai, même si moi je n'y arrive pas. Mais quelqu'un dira alors, ok, c'est facile d'être sauvé chez vous. Pas besoin d'être parfait, une prière magique et hop, tout le passé lavé à la machine, on devient, comment il dit le texte, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est nouveau, page blanche, cahier neuf, et tout ce que tu as pu faire, c'est bon ? Non. Malgré le cantique qui dit tu peux tout recommencer et balayer ta vie passée, le passé ne disparaît jamais. La responsabilité des conséquences de nos fautes ne nous est jamais enlevée. Jamais enlevée. Nous devons les vivre toute notre vie. Et même lorsque le jour du jugement arrivera, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Et nous aurons des comptes à rendre. Pour tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura dit. Et le Seigneur ira jusqu'à tout ce que nous aurons pensé. Chacun de nous répondra honnêtement de chaque chose. Et j'imagine, je ne peux pas vous le prouver, que ça se fera en présence de tous. Pour restaurer aussi celles et ceux à qui nous aurons fait du tort. Et pour nous-mêmes être restaurés par rapport à celles et ceux qui nous auront fait du tort. Il y aura une vraie justice qui sera rendue. Le pardon de Dieu ne permet pas d'échapper à la justice, mais de la traverser. À cause du pacte que je l'espère vous et moi acceptons de vivre avec Dieu, la justice de Dieu, la sentence ne tombera pas sur moi ce jour-là. Car la justice de Dieu, à cause de nos fautes, est déjà tombée sur Jésus-Christ lors de sa crucifixion. C'est le rituel dont j'ai parlé et dont l'apôtre parle dans ce passage. À la fin, il dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le manteau souillé de fautes, de triches, de lâcheté, d'égoïsme que je porte est déposé sur les épaules de Christ, tandis que son manteau de justice est placé sur mes épaules. Je suis considéré comme juste, sans aucun mérite de ma part, mais seulement par les mérites de Jésus. Et il y a une deuxième clause au pacte. Attention. malgré la justice qui me couvre, malgré mon casier judiciaire, si vous voulez, blanchi, je ne peux pas rentrer dans le royaume. Je ne peux pas. Pour vivre dans la nouvelle création, il faut que je sois complètement transformé. Une nouvelle créature. Ah, vous me direz, mais oui, mais tu vas ressusciter. Tu auras un nouveau corps. Amen. Mais ça ne suffit pas. Il faut que mon cœur soit transformé aussi. Régénéré, purifié. De tout son goût pour le péché. Il y a mon intelligence, mon esprit, qui doivent être transformés selon la sagesse de Christ. Et alors mon corps reviendra à la vie et mon cœur sera semblable à celui de Jésus. Certainement, il y a des personnes que vous aimez qui sont auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais ils sont maintenant transformés dans leur esprit, dans leur cœur. Vous les reconnaîtriez, mais quelque part aussi avec difficulté parce que vous ne les aurez jamais connus aussi humbles, aussi doux, aussi patients. Toutes celles et ceux que vous connaissez qui sont auprès du Seigneur aujourd'hui ont été façonnées selon le caractère de Jésus. Non, ils gardent leur personnalité, mais leur caractère est celui de Christ. Je n'emporterai pas mon côté querelleur au paradis, ni cette tendance que j'ai d'avoir toujours le dernier mot au paradis, ni ce cynisme un peu taquin, hein, que je balance à tous les repas de famille au paradis, ou cette attitude de toujours éviter les conversations importantes au paradis. Vous nommez dans votre tête. Peut-être tout ce qui vous a fait souffrir chez quelqu'un qui est déjà auprès du Seigneur. Puis on ne peut pas vraiment appeler ça un péché, c'est juste qu'il est pénible, tu vois. Mais ça aussi, il y aura une justice. Quand je signe un pacte avec Jésus-Christ, je reconnais l'état tordu de mon cœur. J'accepte que je n'ai pas juste besoin qu'on me pardonne mes bêtises, hein, comme on dit, mes fautes, mes crimes peut-être. J'ai besoin aussi qu'il transforme mon cœur. Un cœur qui aime Dieu et son prochain de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Si vous croyez qu'être sauvé revient à passer une grande porte pleine de feu sans être cramé, puis ensuite de l'autre côté on peut repartir comme avant. Non. Je signe le pacte, je renonce au péché que j'ai fait, mais aussi au péché que j'aime. Et celui-là, on sait très très bien le déguiser. Je m'engage avec le Seigneur. Il y a des péchés, je vais lutter contre eux et je vais même presque m'en débarrasser. Il y en a qui reviendront me harceler toute ma vie et me faire tomber encore et encore. Et puis il y en a qui me domineront peut-être jusqu'à ma mort. Et puis il y aura même, vous savez, ces œillères, ces façons que j'aurai de faire du mal aux autres que je ne verrai jamais. Bref, ce sera une version de moi transformée qui arrivera dans la présence de Dieu. Et là, vous me reconnaîtrez sans me reconnaître, rempli de sagesse, de douceur, d'humilité, attentif aux autres, avec une langue qui n'est jamais double. Le pardon de Dieu, on peut le croire, sert à échapper à la justice. Non. Le pardon de Dieu sert à échapper à l'enfer. Non. Le pardon de Dieu sert à me transformer à son image. Il me pardonne pour pouvoir me transformer à son image et vivre avec moi cette communion qu'il a toujours voulu depuis le début. Dieu nous sauve en nous accordant le pardon, mais il doit encore accepter qu'une fois ce pacte conclu avec nous, nous continuions de pécher. Il a choisi de nous supporter tels que nous sommes jusqu'à la mort, à continuer des fois nos mauvais choix, à continuer avec nos œillères, à continuer à boiter jusqu'à notre mort. Et c'est parce que cette nouveauté de vie qu'il plante en nous comme une graine, oui, elle pousse toute notre vie dans notre cœur, mais elle ne parvient jamais à tout purifier. Alors à notre mort, il va achever son travail et nous purifier le cœur et le corps. Au final, Dieu a bien du courage. Il s'acharne pour nous sauver. Et nous, tout ce qu'on pense peut-être faire comme effort pour plaire au Seigneur n'entame qu'une toute petite partie du travail qu'il lui restera à faire au jour où il va nous accueillir dans son royaume. On peut s'imaginer arriver au paradis en disant « Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, regarde. » Et là, vous le regarderez dans les yeux, vous allez voir cette sainteté, cette pureté, d'une intensité incroyable. Et vous allez réaliser à quel point il vous restait du chemin à faire. Alors vous allez vous retourner devant votre œuvre. Puis vous allez réaliser que la seule œuvre qui compte vraiment, c'est la sienne. Alors ça fait surgir deux sentiments en moi, tout ça. De l'humilité. Au final, nous sommes peu de choses face au Créateur. Et la part que nous jouons dans notre salut, elle pèse pas plus qu'une plume dans un ouragan. Heureusement que lui est sûr. Qui donne une espérance sûre. Lui est sûr et déterminé à me sauver, à mon salut. Il s'y engage. Jésus, c'est quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas le quoi qu'il en coûte du président Macron. Parce que le quoi qu'il en coûte du président Macron, il s'y engage, mais c'est nous qui payons à la fin. Quand Jésus s'y engage, c'est lui qui paye. Tout. Qu'est-ce qui nous reste à nous ? De croire, de vouloir, de recevoir. Je disais sentiment d'humilité, puis sentiment d'admiration. Quel amour, quelle grâce insondable. Quelle façon qu'il a eue de choisir d'être juste, de rendre la justice, mais au dernier moment de se frapper lui-même. Pour pas me frapper moi. Merci pour ce pacte. Dieu est admirable et génial. Et alors plus je comprends qu'il est génial, plus je comprends que je suis petit, ou plus je comprends que je suis petit, plus je comprends qu'il est génial. Et si ces deux sentiments habitent en vous, ben alors vous êtes des parfaits ambassadeurs de Christ. Si ces deux sentiments habitent en vous, vous pouvez être des grands ambassadeurs de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous saurez le dire. Vous savez pourquoi ? Parce que vous verrez autour de vous personne qui est irréconciliable avec Dieu. Parfois, pour nous, se convertir, ça veut dire devenir un bon chrétien. Des bons chrétiens, des bons et bonnes chrétiennes, ce sont des gens rangés, avec un boulot stable, une vie sans excès, des relations à peu près restaurées avec nos proches, quand ça dépend de nous. Mais vous savez, parfois, ce seront des épaves sociales, des échecs professionnels, des déchéances morales qui seront sauvées. Parfois, ce seront des gens qui se seront battus toute leur vie avec leurs péchés. Et de notre point de vue, ils n'auront jamais eu de triomphe quelconque. Parfois, arriveront jusqu'au bout de leur vie des gens qui n'auront pas réussi à tout réparer, à tout remettre en ordre. C'est pas pour ça qu'ils finiront loin de Dieu. Parce que ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de Christ qui sauve. Ils seront autant sauvés que vous et moi, qui apparaissons peut-être plus stables, plus rangés, plus bons chrétiens. Alors, à qui annonçons-nous le salut ? Qui est-ce que nous appelons à la conversion, à la réconciliation avec Dieu ? Celles et ceux qui sont récupérables à nos yeux ? Qui feront un bel ajout sur les bancs de l'Église ? Ou est-ce que nous annonçons le salut à toutes celles et ceux que nous croisons, même s'il nous faut assumer avec le Seigneur des contradictions jusqu'à leur mort? Que le nom du Seigneur soit élevé et que notre ego soit abaissé. Amen.
Prier. Seigneur, comme tu nous as réconciliés avec toi, on peut se tenir devant toi ce matin pour faire monter nos demandes, nos supplications, nos requêtes. Et on sait que tu nous écoutes, tu nous entends. On te remet ce matin déjà les personnes de notre assemblée qui sont dans la maladie, à parler de Jean-Jacques. À parler de René, voilà, que tu les bénisses avec leur famille. Merci de garder tous ceux qui ne peuvent pas forcément nous rejoindre physiquement. Que tu les visites, que tu leur montres ta présence, ton amour. Merci notre Dieu pour ce Noël du cœur, ce témoignage